Quand Decathlon dévoile son nouveau logo en 2024, tout le monde se moque d'eux sur Twitter. Ça ressemble à Infinity, à ASICS ou encore à la K-Corp. En gros, pourquoi faire quoi ? Encore un rebranding qui sert à rien. Un scandale même, d'après la CFDT de Decathlon, qui aurait coûté 2 millions d'euros à l'entreprise. Mais derrière ce changement cosmétique,
le nouveau bleu, il est magnifique, je l'adore.
Il y a en réalité une stratégie absolument monumentale. Il n'y a rien qui décrit mieux ce que Decathlon est en train de faire sous nos yeux que cette phrase de Tony Montana dans Scarface.
Moi, je vais posséder ce qui me revient, le monde, Chico. Et tout ce qu'il y a dedans.
Decathlon est en train de développer une expansion internationale avec une ambition et une méthodologie de narcos, purement et simplement. Car oui, aussi dingue que ça puisse paraître, le playbook que l'enseigne est en train de dérouler suit à la lettre la prise de monopole des cartels sur le trafic de stupes. Dans cette vidéo, je vais déconstruire pour vous le plan machiavélique de Decathlon pour devenir la marque de sport la plus puissante du monde. Vous allez découvrir qu'à partir de ce rebranding qui paraît anodin, ils comptent utiliser des barrières à l'entrée qu'ils ont déjà et d'autres qu'ils veulent construire pour non seulement contrôler l'offre, mais surtout la demande. Comment ils comptent cadenasser la production et la logistique et d'un autre côté, créer une dépendance en tissant autour de vous une toile dont vous ne pourrez plus vous échapper. Cette histoire en marche va radicalement changer votre perception du branding et peut-être même vous inspirer pour votre propre activité. Si vous apprenez rien, je vous rembourse. Vous voyez ce pantalon là ? C'est mon bas de survêt blanc Decathlon que je portais au collège. Et vous voyez là ce petit détail bleu ? Eh ben, c'est la base de l'étiquette Decathlon que j'avais découpée. Bah oui, parce que c'était la honte à cette époque-là. Decathlon, c'était pas une marque de sport, c'était un distributeur. Un supermarché du sport avec son slogan ringard.
Decathlon à fond la forme !
Ce qui collait plutôt bien avec l'attribut d'accessibilité de l'enseigne retailer discount. Mais évidemment, dans notre esprit, c'était pas mis une seconde en comparaison avec des slogans comme... Decathlon, c'est très familier pour nous tous, ça fait partie des meubles. Ça fait 50 ans qu'on y va pour acheter des articles de sport pas chers, des trucs pour débutants, des trucs fonctionnels, mais certainement pas cool et désirables. Par la suite, l'enseigne a créé plein de marques distinctives, justement pour se séparer de l'image supermarché du sport. Des vraies marques techniques spécialisées. Alors vous les connaissez, hein, Domios pour le fitness, Quechua pour la randonnée, Between pour le vélo, Kipsta pour les sports co, etc. Mais toutes ces marques gardaient l'image premier prix, cantonnée à l'entrée de gamme. Quand vous devenez sérieux dans un sport, vous passez naturellement à une vraie marque de sport spécialisée. Et puis en 2024, tout a changé avec ce rebranding. À première vue, voilà ce qui change concrètement. On garde la police historique de Decathlon, à peine retouchée. Le bleu donc plus moderne, profond, contrasté et numérique. Un pictogramme qui apporte une vraie identité plus forte, qui n'existait pas avant, et c'est ça le point important. Une cohérence graphique globale renforcée justement avec cette orbite, qui pourra être présente sur tous les produits, tous les points de contact, ainsi que de nouvelles typographies. Derrière ces changements visuels se cache un bouleversement stratégique majeur. Decathlon étant initialement une marque retailer, l'idée était de devenir le hub sportif. Et en même temps qu'on vendait du Nike, on plaçait ses propres marques en entrée de gamme. Comme un cartel mexicain qui distribue la cocaïne colombienne et qui profite du réseau pour placer sa weed. Certaines des marques Decathlon ont rencontré du succès, d'autres pas du tout. Mais c'est cette stratégie de volume qui a permis de trouver les marques et les produits gagnants. Avec ce rebranding, Decathlon décide de réduire drastiquement son écosystème de 80 marques à seulement 12 marques principales. Désolé de vous faire de la peine, mais Kalenji va disparaître. Rest in peace. Et c'est pas tout. Ces marques qui autrefois étaient indépendantes sont désormais visuellement rattachées à la marque principale, grâce à ce fameux nouveau pictogramme. Ce que Decathlon a fait là, c'est abandonner le modèle qu'on appelle House of Brands, quand une entreprise possède plusieurs marques distinctes et autonomes, comme Unilever par exemple avec ses nombreuses marques indépendantes, et passer à un modèle Endorsed Brands. Là, l'exemple idéal, ça va être Marriott, avec ses différents hôtels, mais toujours sous la coupe de la marque mère. Alors pourquoi ce changement est-il stratégique ? Parce qu'il permet d'utiliser tout le capital de marque existant de Decathlon, de concentrer tous les investissements marketing sur une seule marque forte, au lieu de les disperser et cramer les ressources dans la création de confiance pour 80 marques différentes, de clarifier l'offre pour les consommateurs perdus face à trop de choix, et de renforcer l'attribution de la valeur à la marque mère Decathlon. En chiffres, ça veut dire quoi ? Selon plusieurs études, une marque forte peut représenter jusqu'à 70% de la valorisation d'une entreprise. Avec un chiffre d'affaires mondial de plus de 15 milliards d'euros en 2023 et une croissance annuelle d'environ 9%, Decathlon joue clairement dans la cour des grands. En d'autres termes, Decathlon a compris que pour partir à la guerre, il fallait une force de frappe, des armes. Et le premier move, c'est l'unification de leurs forces. De la même façon que la première étape de l'expansion des cartels mexicains a été de s'unifier sous l'égide de Félix Gallardo, fondateur du cartel de Guadalajara, qui avait établi un réseau centralisé pour coordonner la distribution vers les États-Unis, en absorbant les petites organisations criminelles locales et en unifiant les plus grosses, passant de plusieurs cartels isolés à une entité Endorsed Brands plus solide. Voilà, donc Decathlon est en ordre de bataille pour la guerre, mais contre qui ? Eh bien, la marque veut changer de ligue. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comme Decathlon, j'ai moi aussi eu des envies de conquête du monde avec mon app LP en 2015.
Les applis s'appellent Uber, Airbnb ou encore LP.
On avait trouvé des partenaires au Royaume-Uni, en Italie, au Brésil, en Espagne.
Emilio ofrece 10 euros a quien le ayude con su mudanza.
Et on passait notre temps à faire de la traduction, surtout pour le SEO. Un vrai cauchemar, aller-retour interminable pour des traductions cohérentes, pages dupliquées manuellement dans chaque langue. Et quand on mettait à jour le contenu français, bah fallait revoir toutes les versions. Bref, une galère sans nom. À cette époque, j'aurais rêvé avoir l'outil partenaire de cette vidéo, Wiglot, l'outil no-code de référence pour la traduction de sites web, compatible avec tous les CMS, WordPress, Shopify, Webflow, etc. Il traduit et affiche un site en plusieurs langues en quelques clics. Wiglot combine IA et traduction humaine pour un contenu adapté à chaque langue et de haute qualité. On peut aussi importer son glossaire pour automatiser la traduction avec son wording. Autre atout, c'est optimiser SEO. Vos pages traduites sont indexées. Et pour ceux qui visent le monde chico, on ajoute très facilement de nouvelles langues à mesure que l'entreprise grandit. Les nouveaux contenus se traduisent en continu et le temps gagné est juste incalculable. Pour tester, le lien est en description. Et pour aller plus loin, vous bénéficiez d'un code promo Leonardi15. Jusqu'à maintenant, Decathlon était en concurrence avec Intersport, GoSport, etc. Les autres chaînes de distribution d'articles de sport. Ils se battaient pour être le meilleur supermarché du sport. Maintenant, Decathlon veut quitter cette catégorie marketing de distributeur, quitter la catégorie dans laquelle, inconsciemment, les gens regroupent toutes les marques qui proposent un même type de produit ou service. Elle veut maintenant intégrer les marques mondiales de sport. Dans cette nouvelle catégorie, leurs nouveaux concurrents deviennent donc Nike, Adidas, Puma, etc. Les plus gros géants du secteur. Et c'est contre eux que Decathlon part en guerre économique. Comme les Colombiens étaient initialement les rois du trafic. Cette ambition peut sembler complètement folle, voire suicidaire, mais pour ce faire, Decathlon mise sur un positionnement unique. La plupart des marques de sport mettent en avant la performance, l'excellence. Nike, avec son Just Do It, glorifie une forme d'élitisme. Les winners et le dépassement de soi. Ils mettent en avant les meilleurs athlètes du monde, LeBron James, Mbappé. Pour vous inspirer. Decathlon, avec son nouveau slogan Ready to Play, choisit un positionnement radicalement différent sur un premier axe de son mapping concurrentiel. L'accessibilité inclusive versus l'élitisme sportif. C'est pas un hasard s'ils ont choisi Antoine Griezmann comme ambassadeur. Un footballeur de classe mondiale, certes, mais aussi quelqu'un perçu comme accessible, familial, authentique. En adoptant ce positionnement, Decathlon fait un pari audacieux. Il y a plus de gens qui veulent faire du sport pour le plaisir que d'athlètes d'élite. Autre axe de différenciation, une expertise multisport pointue unique, résultant de décennies de tests avec leurs différentes marques. Cet attribut est opposé au lifestyle que d'autres marques essaient de vendre, comme un Adidas cool et urbain, ou encore On qui essaie de vendre de la performance mais l'éco-responsabilité en même temps. Au final, on a affaire à un positionnement à contre-courant plutôt unique, dont l'attribut inclusivité cible en toute modestie la terre entière. Les observateurs l'ont remarqué, ce rebranding semble vouloir positionner Decathlon un peu plus premium, par l'esthétique, la sophistication. Aussi par leur choix de tous leurs nouveaux ambassadeurs. On a parlé de Griezmann, Gaël Monfils, Jimmy Gressier qui bat le record d'Europe de semi-marathon avec des Decathlon au pied, et même jusqu'en NBA, en sponsorisant le rookie Alex Sarr. Tout ça, c'était inimaginable il y a encore peu de temps. Alors, est-ce que c'est vraiment pour être plus premium ? Eh ben, moi, je pense pas. Parce que être plus premium, ça voudrait dire abandonner l'entrée de gamme. Et ça, c'est le cœur historique de la marque. Depuis toujours, le dénominateur commun de toutes les marques présentes dans le catalogue Decathlon étaient les attributs accessibilité et technique. Les trucs de débutant, quoi. Ça signifie que pour maintenir l'ambition de devenir la marque de référence pour l'équipement sportif mondial, il fallait trouver un moyen de toucher les sportifs plus confirmés et se détacher un peu du cheap pour élargir la perception. On n'est donc pas sur une montée en gamme. Maintenant, ils élargissent leur spectre avec l'ouverture de la fenêtre d'Overton de la perception de la marque. C'est-à-dire la fenêtre de l'acceptable dans l'esprit du public, souvent utilisée dans l'argumentaire politique, pour expliquer qu'on élargit le cadre de la perception commune avec des petites touches en dehors. Une nouvelle perception qui permet à Decathlon désormais de vendre des vélos qui coûtent un bras. Quand on dit souvent en marketing qu'il faut choisir un segment de marché pour être plus pertinent, Decathlon s'en fout complètement. Ils veulent couvrir tout le spectre, de l'entrée de gamme au premium. L'enseigne veut faire partie de toute notre vie sportive, de débutants à confirmés, de loisirs à compétition. Ils veulent nous garder dans leur écosystème pour toujours. Mais pour réussir cette stratégie radicale d'expansion totale, Decathlon a d'abord besoin d'une structure solide. Une stratégie à mi-chemin entre concept de la Silicon Valley et pratique de narcos ambitieux. Pour comprendre, il faut remonter aux bases du commerce. Traditionnellement, les entreprises cherchaient à contrôler l'offre. Posséder les usines, les moyens de production, les ressources, les canaux de distribution, c'est ce qu'on appelle « own the supply ». C'est le modèle classique des business asset heavy. Mais des géants modernes de la Silicon Valley comme Airbnb ou Uber ont compris un truc fondamental. Il est beaucoup plus stratégique et rentable de contrôler la demande plutôt que l'offre. Ces plateformes n'ont ni flotte de voitures à eux, ni chambres ou appartements à eux, mais les gens passent quand même par eux. C'est ce qu'on appelle « on the demand ». C'est le modèle des business asset light, où on contrôle le point de contact avec le client sans posséder les actifs lourds. Par exemple, Kylie Jenner a bâti un empire cosmétique à 900 millions de dollars en sous-traitant absolument tout, sauf le marketing. Fabrication, conditionnement, logistique, tout est externalisé. La seule chose qu'elle contrôle, la demande. Et c'est ça les unfair advantages du monde moderne, les avantages injustes. Et cette stratégie est directement comparable à la révolution qui s'est produite avec les cartels mexicains dans les années 90-2000. Pendant des décennies, c'est les Colombiens qui contrôlaient le marché de la cocaïne. Parce qu'ils contrôlaient quoi ? La production. Les champs de coca en Bolivie et au Pérou, les laboratoires, la fabrication du produit, quoi. C'était les maîtres incontestés de l'offre. On the supply, à son paroxysme. Les cartels colombiens, comme celui de Pablo Escobar ou de Cali, ressemblaient aux grandes marques traditionnelles de sport. Ils contrôlaient la qualité, l'innovation du produit, les capacités de production. Exactement comme Nike avec ses technologies AirTruck et ses usines. Mais il y a un maillon faible dans leur chaîne de valeur, la distribution finale. Donc les Colombiens, ils ont essayé de le distribuer eux-mêmes aux États-Unis, avec des petits avions, avec des sous-marins, mais finalement, ils dépendaient d'intermédiaires pour atteindre le consommateur, comme Nike, qui dépend de Footlocker ou d'autres détaillants pour vendre ses produits. Et c'est là que les cartels mexicains ont révolutionné le business. Ils n'ont pas fait de guerre directe, mais ils ont commencé à contrôler les routes de distribution vers les États-Unis, le plus gros marché de l'époque. Contrôler les points de vente et surtout la relation avec le client final. Ces cartels ont créé un réseau de distribution hyper sophistiqué. Ils ont établi des cellules dans plus de 100 villes américaines, chacune gérant ses propres opérations de vente au détail, avec ses corners ou ses fours. Ils ont même développé des systèmes de livraison à domicile. En gros, ils ont créé des relations avec les communautés locales. Résultat, en moins de 15 ans, les Mexicains sont devenus les nouveaux rois sur le marché. Les profits ont explosé, leur contrôle s'est étendu, et les Colombiens ont été relégués au second rang, comme juste des fournisseurs. Puis finalement, pourquoi pas traiter directement avec le Pérou et la Bolivie pour la coca ? Les Mexicains captent désormais plus de 80% de la valeur ajoutée de la chaîne, alors qu'ils avaient commencé avec moins de 20%. Eh bien, Decathlon suit à peu près le même playbook. Ils vendaient historiquement des produits Nike, parce qu'ils les distribuaient, mais dorénavant, avec cette nouvelle stratégie, ils continuent de collaborer, mais les produits concurrents devraient en toute logique se raréfier dans leur rayon, au profit des produits Decathlon. Comme les Mexicains qui distribuaient la cocaïne des Colombiens et ont introduit dans le même réseau par la suite la méthamphétamine, fentanyl, héroïne de leur propre production et l'historique cannabis qu'ils produisaient déjà. Désormais donc, Decathlon se concentre à suivre ce playbook. Ils doivent donc contrôler l'expérience complète de la demande. Jusque-là, l'enseigne était plutôt aussi dans une logique on the supply, avec le développement de sa production multimarque et le réseau logistique qui va avec. Donc s'ils arrivent à posséder la demande, ils auront tout. L'offre et la demande.
Le monde, Chico.
Mais la question maintenant, c'est comment posséder la demande ? Pour posséder la demande, Decathlon compte d'abord sur son réseau de 1700 magasins physiques partout dans le monde. C'est un avantage concurrentiel colossal que même Nike ou Adidas n'ont pas. Nike dépend encore largement de revendeurs tiers, les Colombiens quoi. Alors que Decathlon contrôle totalement son canal de distribution. Et pour capitaliser sur ce réseau, il transforme complètement l'expérience en magasin. Les nouveaux magasins Decathlon ne sont plus juste des points de vente, mais des véritables hubs d'expérience, des temples du sport. Comme un dealer qui transformerait son coin de rue en un centre communautaire pour fidéliser sa clientèle. Ils adoptent un parcours balade à la IKEA, où vous êtes guidé à travers différentes zones thématiques. L'objectif, bien sûr, c'est la rétention. D'ailleurs, la nouvelle CEO de Decathlon est une ancienne d'IKEA. C'est évidemment pas un hasard. Ils installent des ateliers de réparation, des zones de démonstration où vous pouvez tester les produits, des espaces communautaires où les sportifs peuvent se rencontrer. Bref, un parcours client optimisé pour le temps passé en magasin, maximisant les opportunités d'achat et de connexion émotionnelle avec la marque. De là à ce qu'il y ait un resto pour y passer la journée, on n'est pas loin. Autre pilier de cette stratégie, le contrôle total du parcours client omnicanal. Du mobile au magasin, du site web aux applications. Decathlon veut être présent à chaque instant de votre vie sportive. Ils ont développé des applications gratuites de suivi de performance sportive, comme Decathlon Coach, des communautés en ligne, des contenus éducatifs, du média. Tout ça pour créer une relation directe avec vous, sans intermédiaire, et collecter au passage des données précieuses sur vos habitudes sportives. Ces applications comptent déjà plus de 10 millions d'utilisateurs actifs, comme si un cartel pouvait suivre en temps réel la consommation de ses clients pour adapter son offre. Et enfin, ils développent un écosystème complet de services, bien au-delà de la simple vente de produits. Location d'équipements, tester avant d'acheter, ou alors louer pour une utilisation ponctuelle. Seconde main, vous pouvez échanger votre matériel usagé contre des bons d'achat. Atelier de réparation, cours et coaching personnalisés, vous pouvez progresser avec l'aide d'experts Decathlon. Événements sportifs communautaires, où vous pouvez rejoindre une tribu de passionnés. Et même des assurances et garanties étendues, où vous pouvez protéger vos équipements premium. Chaque service additionnel permet à Decathlon de tisser une toile d'engagement qui rend le client dépendant de son écosystème. Et j'utilise le mot dépendance à dessein, bien sûr. L'approche est d'une puissance et d'une ambition folle. Contrairement à Amazon qui n'a pas de temple physique dédié à ses activités, ou Nike qui dépend encore de distributeurs tiers, Decathlon possède l'avantage unique de maîtriser à la fois le physique et le digital. Tout le monde veut créer bien sûr une expérience omnicanale parfaite, mais qui y parvient vraiment? Decathlon a donc la stratégie, la logistique et toutes les armes pour l'exécuter. Mais pour que cette stratégie de domination totale fonctionne, Decathlon avait besoin d'un élément unificateur, d'une arme émotionnelle qui transcende le simple produit. Et c'est là qu'intervient leur botte secrète. Voilà, on y est, c'est la scène finale du film. Pour enfoncer le clou, Decathlon sort l'arme fatale, la mission sociétale. Je vous propose d'analyser ça avec un outil que j'utilise quand je réalise des stratégies de branding pour mes clients, la brand story. Et ça s'articule comme ça. On a qui sont les personnages, pourquoi ils font les choses, avec l'état des lieux et les objectifs, comment ils comptent faire pour atteindre leurs objectifs, et in fine, qu'est-ce qu'ils proposent à l'instant T. Pour Decathlon, tout est énoncé. Pourquoi ils font ça? Chez Decathlon, nous sommes convaincus que le sport a un rôle essentiel à jouer pour aider les sociétés à être en meilleure forme et plus heureuses. Le sport nous aide à nous reconnecter à notre humanité, à la planète et à notre corps. Comment ils comptent faire pour faire ça? Eh bien, ils nous le disent. Move people through the wonders of sport. Faire bouger l'humanité grâce à la magie du sport. Et in fine, qu'est-ce qu'ils proposent? On a compris, en gros, ils veulent plus être le supermarché du sport, mais LA marque mondiale du sport accessible. Alors comme c'est nouveau parce que ça n'a jamais été énoncé auparavant par Decathlon, ça peut paraître un peu bullshit pour les initiés. Mais il faut bien comprendre les bénéfices derrière cette mission sociétale. Déjà, c'est aligné avec les besoins de quête de sens de la population d'aujourd'hui. Selon cette étude de 2020, 95% des consommateurs disent que pour eux, une mission de marque forte avec un but est importante dans leur choix. Et c'est encore plus radical pour les jeunes générations. Selon cette étude de Microsoft sur la génération Z, 49% des sondés auraient arrêté d'acheter des marques qui ne correspondaient pas à leurs valeurs. Aussi, cette dimension émotionnelle et sociétale devient l'arme fatale, mais aussi le gilet pare-balles dans leur stratégie. Une arme fatale parce que ça permet d'attaquer les concurrents sur un terrain où ils sont moins légitimes, un peu comme quand les cartels se positionnent comme des bienfaiteurs sociaux, en créant des emplois, en construisant des maisons, en aidant les communautés défavorisées. Et du coup, ça change complètement la perception qu'on en a. Tout pour développer une relation émotionnelle avec le public. C'est de la pure ingénierie sociale. Et aussi, gilet pare-balles. Parce que ça la protège des critiques en la positionnant comme une force positive dans la société. Quand Apple ou Nike sont attaqués sur leur pratique de production, ils peuvent difficilement se défendre. Mais Decathlon pourrait toujours essayer d'utiliser sa mission sociétale d'accessibilité et d'inclusion, de son image de gentil, et peut-être même éviter les campagnes de boycott comme avait pu le subir Nike. Et ça tombe bien parce que Decathlon a justement été accusé récemment de faire appel à des sous-traitants chinois pour fabriquer des produits par des enfants. Typiquement, c'est le genre de communication qui a le potentiel potentiel de ruiner la perception d'une marque. Parce qu'il faut surtout pas que cette mission sociétale soit un slogan vide. Une stratégie de branding doit irriguer toutes les décisions de l'entreprise, à tous les niveaux. Comme par exemple la fabrication des produits, qui doit être alignée avec les valeurs. Produits qui doivent être accessibles au plus grand nombre. Magasins qui doivent être pensés comme des espaces communautaires ouverts à tous. Des services qui doivent faciliter la pratique du sport, quel que soit le niveau. Une communication qui doit mettre en avant des attributs ordinaires et accessibles, et pas montrer des athlètes extraterrestres intouchables. On doit trouver cette cohérence absolument dans tous les points de contact avec l'audience. Le logo, le slogan, la mission, le positionnement, l'expérience client, tout doit s'imbriquer parfaitement. Et c'est exactement ce qui permet de construire une marque forte et mémorable. Comme le dit Martine Neumeyer dans The Brand Gap, une marque, c'est pas ce que vous dites qu'elle est, mais c'est ce que les autres disent qu'elle est. C'est leur perception. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment construire une marque qui sort du lot et qui touche aux émotions de votre audience ? Ben justement, c'est la question auquel j'ai essayé de répondre pendant des années. J'ai testé toutes les méthodes de branding existantes, j'ai lu tous les livres sur le sujet et j'ai expérimenté. Pour formaliser tout ça, j'ai créé une masterclass branding dans laquelle je retrace tout ce parcours initiatique. J'y explique ce qu'il y a de bénéfique dans chaque méthode, comment éviter les pièges classiques et ce qui est réellement important pour bâtir une marque différenciante et qui a vraiment un impact sur le revenu. Pour y accéder, cliquez sur le lien dans la description. Donc avec ce rebranding, Decathlon investit dans son actif le plus précieux. La marque a l'intention non pas de jouer dans la cour des grands, mais de se les faire tous. Elle a compris qu'en plus de mettre en place le contrôle de l'offre et de la demande, le lien indispensable pour apporter de la cohérence à l'ensemble passe par le pouvoir émotionnel du branding et la désirabilité d'une seule marque. Le but de cette ambition hégémonique est bien sûr la rétention long terme des clients, c'est-à-dire ce que rapporte un client pendant toute la durée de sa relation avec une marque. Et donc, bah oui, le branding, c'est pas juste un logo. Le branding, c'est la base même de toute stratégie business long terme. C'est ce qui transforme un simple produit en une expérience, une transaction en relation. L'objectif affiché par Decathlon, c'est juste de maintenir leurs clients dans leur écosystème tout le long de leur vie. Et la cible, c'est tout simplement le monde entier. On y est là, le monde est à moi. Seul le temps, bien sûr, nous dira si Decathlon réussira son pari, s'ils deviendront le nouveau géant du sport mondial, ou s'ils finiront comme Tony Montana. En attendant, c'est très culotté. Bien joué.